bonjour à vous tous, ici Chantal Lavoie, de nouveau votre émission Aime l'été en ce mercredi 24 juillet, ce rendez-vous estival qui vous accompagne entre midi et 13h, une heure de lunch bien remplie de sujets, de discussions, d'histoires et d'exploits, mais aussi dans la prochaine heure, on s'intéresse au théâtre inclusif destiné à un jeune public. On va parler également de sécurité nautique et aquatique avec un grand spécialiste en la matière et on va faire le tour de notre vocabulaire LGBTQ+. Je vous invite à passer l'heure qui suit en notre compagnie. Voici Aime l'été. Et au menu de cette émission, il sera question de cette fameuse traversée du lac Saint-Jean dont la réputation est légendaire. C'est un événement incontournable de l'été qui réunit des nageurs de partout dans le monde depuis 70 ans, en fait. Nous allons accueillir pour en parler Marc-André Leclerc. Nous allons également discuter de théâtre inclusif destiné aux jeunes avec l'auteur Élie Marchand. Et on reçoit Marie Houzeau, directrice générale de l'organisme Gris Montréal, groupe de recherche et d'intervention sociale. Nous allons démystifier le vocabulaire LGBTQ+. Alors, et puis on va commencer l'émission. Et oui, comme c'est la Semaine nationale de prévention de la noyade, on commence l'émission avec le porte-parole Reynald Hawkins, qui s'y connaît en matière de sécurité nautique et aquatique. C'est tout un programme. Bienvenue à Aime l'été. Et oui, Aime l'été. Alors, bonjour Nathalie.
Bonjour, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Alors, oui, tout un programme. Hein?
Oui.
On
oui.
est aussi bien de commencer maintenant.
On est dans l'eau pas mal aujourd'hui.
Oui, on est dans
avec
l'eau.
Nos sujets.
Et oui, tout à fait. Et on reçoit Reynald Hawkins. Rebonjour, Monsieur Hawkins.
Hey, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, c'était vu tout récemment. Et puis là, ben, cette fois-ci, on avait parlé de vous la dernière fois, mais là, bon, on va passer notre tour cette fois-ci. On va plutôt tout de suite parler de cette Semaine nationale de prévention de la noyade. Vous êtes très actif cette semaine. Vous avez beaucoup à faire.
Oui, vous avez raison et je suis pas le seul. C'est au-delà de 200 ambassadeurs, ambassadrices, là, dont le parc Jean Drapeau où est-ce que je suis présentement, où on fait des activités à tous les jours afin de sensibiliser les utilisateurs de ces installations-là, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, à la prévention de la noyade, puisque c'est la période de l'année où malheureusement, on risque de rencontrer le plus de noyades, et là, on l'explique. Règle générale, il fait beau, mais il y a plus de gens près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau à cause des vacances.
C'est ça.
Alors, de là, l'importance de redoubler de prudence et de suivre nos conseils de sécurité.
Dites-moi, quand vous parlez d'activité, quel genre d'activité vous pratiquez avec les familles ou les...
Entre autres, aujourd'hui, là, ouais. On accueille 200 jeunes de camp de jour où on va leur faire un petit défi qui s'appelle « Nage avec moi », qui s'apparente un peu à « Nager pour survivre » qu'on fait durant l'année scolaire. Alors, donc, on est à la plage, on leur demande de faire ce qu'on appelle une entrée désorientante là, dans une partie un petit peu plus profonde, ce qu'ils sont capables de se maintenir à la surface pendant 60 secondes et est-ce qu'ils peuvent nager une certaine distance en position ventrale ou dorsale. On ne cherche pas de faire des Olympiens ou des Olympiennes, là, mais plutôt de s'assurer de leur survie aquatique si jamais ils se retrouvaient dans une position où ils seraient en difficulté. Cette semaine, on avait des kiosques d'information sur le dossier des piscines résidentielles. Mm-hmm. Demain, c'est la journée mondiale de prévention à la noyade. Donc on va insister encore à nouveau sur certaines activités de sensibilisation. Et vendredi, on va parler surtout du port obligatoire de la veste de flottaison qui devrait être incessamment dans la réglementation fédérale.
C'est très bien. Écoutez, vraiment toute une semaine. D'ailleurs, les municipalités aussi sont invitées à organiser des activités. Je pense à la ville de Mont-Saint-Hilaire, ambassadrice de cette Semaine nationale de la prévention de la noyade.
Oui, absolument. Je vous dirais que la majorité, pour ne pas dire la totalité des lieux de baignade, là où vous avez des sauveteurs et des moniteurs de natation, organisent des activités. Pour certaines municipalités, c'est le point fort est la journée de demain. J'ai vu encore sur les réseaux sociaux plusieurs illustrations et photos là, de leurs activités. Alors nous, on applaudit ça, puis on a des villes comme Brossard, pour pas la nommer, qui a décidé de promulguer la semaine nationale par résolution du Conseil. On a la même chose du côté de Gatineau avec la capitale nationale. Alors on voit de plus en plus des municipalités emboîter le pas et de demander à leur personnel de s'impliquer dans la prévention de la noyade.
Vous parliez de réglementation du port du gilet de sauvetage. Dites-moi, est-ce que sur les bateaux, c'est obligatoire?
Le port n'est pas obligatoire, mais vous devez avoir en nombre et en taille appropriée pour chacune des personnes à bord. Mais la société de sauvetage préconise le port obligatoire et on ose espérer que le ministre responsable des transports, Pablo Rodriguez, qui doit aller en consultation incessamment sur ce projet-là de modification du règlement concernant la sécurité nautique, là, on espère qu'il va rendre obligatoire. Certains nous laissent entendre qu'on devrait prioriser les enfants, nous en conviens, mais les enfants portent déjà des dispositifs de flottaison lorsqu'ils sont à bord d'une embarcation parce qu'ils sont plus à risque de tomber par-dessus bord.
Ouais.
Mais nous, on dit que c'est la même chose chez les adultes.
Exactement, parce que...
Il suffit d'une fausse manœuvre que tout le monde va se retrouver par-dessus bord.
Oui, absolument.
Et combien de fois on a surestimé notre capacité de savoir nager. Là.
Oui, tout à fait. Et puis justement, je vous entendais une anecdote. Là, vous avez vu une maman sur sa planche à pagaie avec les enfants. Pas de problème, les enfants ont leur gilet de sauvetage. Ça, ça va. Mais la maman n'en a pas. Alors, tu sais, il y a une espèce de paradoxe là-dedans, là.
Oui, absolument. Et le parallèle que je ferais, c'est comme des parents qui décident d'aller faire du vélo, puis tous les enfants portent leur casque, mais pas eux. Alors, donc, je me permets un certain jugement. Mais ce que je sais, par exemple, c'est ma prétention, c'est que si tout le monde portait cette veste de flottaison-là, ben j'aurais 20 décès de moins par année au Québec.
C'est pas rien.
Là. Alors, sur une moyenne de 80, on parlerait plus d'une moyenne de 60. Mais en même temps, l'autre prétention que j'ai, c'est que si c'était obligatoire, je suis persuadée que les gens iraient acheter le bon dispositif de flottaison, adapté à leur taille, adapté à leur activité, et là, ils la porteraient en tout temps, plutôt que, puis j'ai rien contre, là, mais plutôt que la veste traditionnelle qu'on achète à 19,95 dans une grande surface, elle est conforme. Mais les gens aiment mieux s'asseoir dessus que de la porter.
Monsieur Hawkins, vous disiez tantôt, les gens disent, moi, je sais nager, mais en même temps, c'est ça, moi, je vis sur le bord du fleuve et je vois des gens passer avec leur planche à pagaie, et pas de gilet. Et je me dis, ces gens-là, ils ont bien beau savoir nager, mais il suffit d'un coup sur la tête ou se taper la tête sur une roche, perdre connaissance, puis c'est terminé.
Vous avez raison, mais vous rappelez-vous, on en a parlé lorsqu'on s'était vu la première fois pour dire... Est-ce qu'on sait plus se baigner que de savoir nager? Alors, parce que faire 2-3 coups de brasse, déposer mes pieds dans le fond de la plage ou de la piscine que j'ai dans ma cour arrière, c'est pas savoir nager, justement. Savoir nager, c'est d'être capable minimalement de faire 25 mètres dans des vagues, dans du courant, dans une profondeur de 3-5 mètres. Alors, ça devient un défi pour bien des gens.
C'est ça. Donc, on surestime nos capacités, assurément. Et on dit que, bon, les personnes qui se noient, majoritairement, ce sont des hommes, 87%.
Oui, ce sont des hommes, genre masculin, tout âge confondu. Il y a des facteurs tels que la témérité, la surestimation de capacité de savoir nager. Malheureusement, il y a de la présence de l'alcool aussi dans bien des
assurément.
Cas. Particulièrement pour les sports nautiques. Alors, rappelez-vous là que nous, on a déjà travaillé avec les gens d'Éducalcool pour dire que lorsque vous consommez un verre d'alcool à bord d'une embarcation, c'est l'équivalent de 3 sur la terre ferme à cause de la déshydratation. L'alcool s'absorbe plus rapidement lorsqu'il fait chaud. Là. Et en plus, avec le clapotis des vagues, ben, vous avez l'équilibre d'une personne qui a consommé 3 verres d'alcool sur la terre ferme.
Ah, ben écoutez, oui, vraiment, ce sont des aspects dont il faut tenir compte, bien sûr. Alors, on se noie principalement dans les plans d'eau comme des lacs, je pense que c'est 30%. Du côté, de la mer, on parle de 37%.
Et puis les rivières, à peu près 23 %. Ce sont des statistiques intéressantes, là. Et les piscines représentent à peu près 4 %. Je veux pas, évidemment, comme on dit, le thème de la Semaine nationale de la prévention de la noyade, c'est justement la noyade est évitable. Mais évidemment, c'est sûr qu'on pense parfois là, qu'on parle beaucoup, on met beaucoup l'accent sur les piscines, mais il faut beaucoup parler des plans d'eau. Beaucoup trop de gens aussi s'approchent des plans d'eau et finalement tombent aussi. Parfois, ce sont des accidents bêtes, comme ça.
Oui, vous avez raison. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, ces gens-là sont emportés par les courants de la rivière. Mmh. Et vous savez, moi, là, s'il y a un message qu'on a à retenir, c'est peu importe l'activité, hein, qu'elle soit nautique ou aquatique, peu importe votre âge, peu importe votre genre, ne soyez jamais seul lorsque vous êtes près de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau.
Ouais.
Puisque 50 % de nos victimes étaient seules au moment de leur incident.
Ouais.
Personne pour déclencher le 911, personne pour tenter de vous aider. Personne pour pouvoir nous relater l'histoire. Mmh. Alors, certainement que, comme dirait une certaine publicité, à deux, c'est toujours mieux.
Oui, je fais des gros yeux à ma collègue Nathalie qui m'a dit l'autre jour, « Ah, je suis allée seule faire du kayak. » Ben voilà.
Mais je porte mon gilet, M. Hawkins.
C'est déjà au moins ça, là. Ça, j'en conviens, là.
Mais je vous ai entendu, je vous ai entendu.
Écoutez, ça, c'est sûr que c'est. J'en ai plein d'autres conseils, tels que le port de la veste de flottaison, naturellement, mm-hmm. mais aux parents, peu importe le lieu de baignade, que ce soit la cour arrière, le chalet, la plage publique, la piscine publique, le parc mm-hmm. aquatique, le meilleur surveillant restera vous, l'adulte responsable de l'enfant. Alors, prenez le temps de désigner une personne adulte, pas le grand frère, pas la grande sœur, adulte. Mm-hmm. Puis son mandat, c'est de surveiller pendant 15 minutes et vous faites des rotations avec les autres parents ou les autres adultes, puisque combien de fois j'ai pu lire ou entendre « Ah, ben on était tous sur le bord de la piscine puis on surveillait, mais dans le fond, on s'est rendu compte que personne ne surveillait vraiment parce que tout le monde était distrait à discuter, à jaser. » Non, le rôle du surveillant désigné, c'est de surveiller constamment les enfants.
C'est ça. Et puis évidemment, bon, c'est la grosse période de l'année. 65 % des noyades se produisent entre mai et septembre. J'aimerais ça aussi aborder la question, je ne sais pas si, en fait, c'est votre champ d'expertise, mais enfin, j'imagine que oui aussi, dans le cas des embarcations. On a beaucoup parlé des îles de Boucherville et tout près de l'île Charon, beaucoup d'embarcations et le risque est très grand aussi, évidemment, d'être heurté que des passagers d'embarcations soient heurtés par d'autres embarcations qui font de la vitesse, ne respectent pas les règles de sécurité.
Ben oui, vous avez raison. Malgré que tous ces gens-là doivent avoir suivi ce qu'on appelle une certification de carte de conducteur d'embarcation de plaisance, nous on dit, vous avez peut-être besoin de reviser vos notes, là, même si vous avez réussi cette carte-là qualifiée de compétence, parce que vous connaissez pas qui a les priorités, c'est quoi les limites permises là dans les différents canaux auxquels vous utilisez votre embarcation. Faut y aller avec prudence. Malheureusement, on a connu des mortalités dernièrement durant l'été où motomarines impliquées ou d'autres types d'embarcations impliquées, mais ça, il suffit là de travailler sur le comportement de tous les gens. Et ce que je sais, c'est ce que je souhaite dans le fond, c'est que lorsqu'il y a une présence policière dans le cours d'eau, moi, je vous confirme qu'il y a un comportement qui est modifié là sur les cours d'eau. Là. Ouais. Alors donc, de temps en temps, ça nous prend une présence policière plus souvent qu'autrement.
Effectivement, et je pense qu'il y a même de la surveillance qui se fait par drone.
Ah ben c'est parce que ça, c'était l'entente que la ville de Boucherville avait avec la CEPAC, là, des îles de la Boucherville.
Ouais, ouais.
De pouvoir faire le décompte des types de passages d'embarcation puis de voir les comportements pour qu'on puisse peut-être cibler davantage les messages d'intérêt public là dans le futur.
C'est ça, parce que bon, il y a les motomarines. Souvent, ben ça entre en conflit avec les gens qui font du kayak, le canot, des canots qui font du canot, c'est-à-dire. Alors vraiment, c'est vraiment tout un... Ça, puis généralement, tu sais, c'est bien beau. On dit, on s'en va à la marina, c'est bien, mais il y a de l'alcool à la marina.
Il y a toujours de l'alcool à la marina.
Ben oui. Ils sont là pour ça. Mais vous savez que dans le fond, tu sais, nous, on veut pas tout interdire. Bien au contraire, là, on veut que les gens aient des plaisirs avec l'eau en leur demandant de suivre les conseils. Mais souvent, là, l'éthique, là, puis la réglementation dit celui ou celle qui peuvent manœuvrer franc doit laisser le passage à l'autre que celui ou celle ne peut pas manœuvrer franc. Je vous donne l'exemple. La moto marine, elle peut manœuvrer franc et direct, comparativement au voilier, par exemple, par rapport au sport à pagaie, par exemple. Mais la sport à pagaie, par rapport au plus gros bateau de marchandises, lequel des deux peut manœuvrer de façon plus franc et direct, ça restera quand même le sport à pagaie, là. Alors, c'est ça, là, faut les répéter, ces messages-là, sur les règles des abordages pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des priorités sur les cours d'eau.
Oui. Monsieur Hawkins, j'ai vu passer, on parle d'enseignement à quoi bon? Qu'est-ce que c'est, ça?
Bien, dans le fond, c'est Be Water Smart. C'est la meilleure façon qu'on a pu trouver pour traduire « ayez les bons comportements aquatiques ».
D'accord.
Alors, devenir à quoi bon veut aller dans ce sens-là.
Bon, c'est la Semaine nationale de prévention de la noyade. Vous êtes bien occupé cette semaine. Et bien, merci d'être là et puis de dispenser vos connaissances, évidemment, au niveau de la sécurité nautique et aquatique. Merci infiniment, Monsieur Hawkins, vous qui êtes très occupé là.
Merci de l'invitation, puis ça me fait plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On écoutait Renaud Garcia Fons, Fortaleza.
Eh ben oui, alors finalement, Nathalie, tu vas faire attention la prochaine fois. Oui. Tu vas peut-être te trouver une amie pour
mais
faire du kayak.
Mais c'est fou, j'ai pas pensé. Je me dis, ben effectivement, j'ai ma veste de sauvetage, puis je me dis, le fleuve est pas, c'est tranquille, l'endroit où je suis, je me dis, il n'y a pas de danger, mais effectivement, partir seul.
Non, c'est la même chose en montagne ou enfin, quelle que soit l'activité. Ben là, on va rencontrer, on va recevoir Élie Marchand, qui est un auteur, est-ce qu'on peut le qualifier d'auteur jeune? Je pense bien que oui. Bonjour, Élie.
Bonjour. Merci.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Mais oui, très bien. Alors, Élie, ben, écoutez, on s'est intéressé beaucoup à votre travail. Ben, d'une part, vous avez écrit quand même plusieurs œuvres, bon, du théâtre jeunesse principalement.
Oui, exactement.
Depuis quand?
Sœur Sirène, notre roman.
Oui, c'est ça, Sœur Sirène, qui est devenue, en fait, aussi, que l'on peut, on peut se le procurer. C'est vraiment, ça a été publié.
Exactement, aux éditions Remis Ménage.
Oui. Et il y a aussi une de vos pièces, Racine, là, qui a été jouée à la Maison Théâtre tout récemment, quand même, à Montréal.
Oui, ça a joué en juin dernier, puis ça poursuit une tournée, ça sera à Ottawa à l'automne prochain.
Oh, quand même!
Si on revient sur Sœur Sirène, qu'est-ce que c'est au juste? L'histoire raconte quoi?
Sœur Sirène, c'est l'histoire de Charlie et Agnès, mm-hmm. deux enfants à l'âge de la préadolescence qui se rencontrent dans une piscine. Charlie est championne olympique, pas encore olympique, mais panaméricain. Et Agnès est une jeune fille qui doit faire de la rééducation physique après un accident qui l'a laissée amputé. Mm-hmm. Donc, ces deux enfants qui, en apparence, n'ont pas grand-chose en commun, finalement se retrouvent un lien d'amitié à travers la difficulté qu'elles ont toutes les deux d'affronter le regard des autres.
Alors, vraiment, c'est une pièce qui ouvre sur le droit d'être soi-même, et sans contrainte, enfin. Et puis, c'est ça, ça nécessite une ouverture d'esprit. Et ça s'adresse quand même à un tout jeune public.
Et quels sont à partir de 9 ans.
Oui, c'est ça. Et puis bon, alors effectivement, c'est sur la différence. Comment les enfants réagissent?
Les enfants réagissent très bien. En fait, moi, j'ai commencé à écrire ce texte en 2017. Donc, ça fait un moment déjà. Et puis, je vous dirais que le plus difficile, ça a été de convaincre les adultes que déjà les enfants acceptaient cette réalité-là et comprenaient. Mm-hmm. Parce que dans mon texte, il n'y a pas d'antagoniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui s'oppose aux quêtes des personnages. Les deux enfants, Charlie et Agnès, deviennent amis et s'aident mutuellement l'une et l'autre dans leurs quêtes respectives. Et dans les premiers tests d'écriture que j'ai fait, évidemment, c'est des adultes souvent qui m'aident à réviser mes textes. Et on m'a dit, je pense que les enfants, ils ne comprendront pas. D'abord, il n'y a pas de méchant. Je suis d'accord, allons tester dans ce cas-là. Allons voir des enfants et écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, dans la bouche des enfants, mais c'est sorti très bien que les enfants s'identifient à cette difficulté-là d'affronter le regard des autres. Surtout qu'il faut dire que toute la pièce se passe dans une piscine. Donc, même en tant qu'adulte, je pense que c'est juste de dire que la piscine, ça peut être un endroit où on se sent vulnérable, on se sent presque mis à nu. Donc, le simple lieu de cette mise en abîme-là de la pièce permet une identification aussi.
Oui, exactement. Et puis, évidemment, Sœur Sirène, vous avez eu l'idée de cette thématique-là, de la sirène, en ayant fait la rencontre, d'une sirène professionnelle, une vraie sirène. Racontez-nous.
Oui, donc c'est un métier qui existe. Mm-hmm. Sirène professionnelle, en fait, j'ai rencontré Claire, la sirène. C'est la première sirène professionnelle de France. C'est-à-dire qu'en fait, elle fabrique ses costumes, ses queues de sirène en silicone. À l'intérieur, il y a une monopane de cachet. Et Claire, elle s'entraîne avec des apnéistes professionnels et elle plonge dans l'aquarium. Donc, si vous allez à Paris cet été ou plus tard, vous pouvez la voir, elle plonge dans l'aquarium
de Paris.
De Paris, oui, oui. Elle plonge dans l'aquarium. C'est un bassin de 9 mètres de profondeur. Et avec elle, dans le bassin, il y a une petite raie. Il y avait avant un petit requin, mais ils l'ont enlevé. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Donc, elle plonge vraiment avec des animaux.
C'est très drôle. Oh là là.
Et quand j'ai appris ce métier-là, je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la figure de la sirène, avec aussi l'identité de genre que je souhaitais aborder. Parce que les sirènes, finalement, elles ont une queue de sirène. On ne sait pas leurs organes génitaux, mais c'est très connoté avec le genre féminin. Je me dis, ah, il y a quelque chose de là d'intéressant comme... comme métaphore.
Ouais. Puis à la fois, ben c'est ça, la sirène, il y a un regard aussi un peu misogyne dans la. Bon, si on se réfère à la mythologie et tout là, finalement, il y a bon le chant des sirènes qui rendait fous les hommes. Il y a plein d'aspects intéressants aussi à développer à travers ça. Évidemment que les enfants ne comprennent pas nécessairement, mais vous avez aimé explorer ce thème-là.
Oui, moi, je trouve ça vraiment très intéressant dans ma pratique d'essayer de déconstruire justement certains des mythes et de les réactualiser dans une perspective féministe. En fait, bon, ce mythe-là de la sirène, il est problématique à certains égards. Comment on peut le traiter d'une manière plus valorisante pour les femmes? Donc, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec l'histoire sorcière.
C'est ça, parce qu'en fait, vous êtes cofondateur de la compagnie de théâtre féministe Libre Course. En fait, c'est du théâtre féministe pour l'enfance et la jeunesse, Libre Course. Donc, parlez-nous un peu de cette idée de fonder cette compagnie théâtrale.
La compagnie Libre Course est vraiment fondée sur la base des valeurs féministes. Et puis, c'est drôle que c'est souvent une question qu'on nous pose. Pourquoi une compagnie de théâtre féministe pour l'enfance et la jeunesse? Et souvent, ce qu'on répond, bon, peut-être que c'est pas la meilleure réponse, mais on dit sûr, mais pourquoi pas? Nous, on a hâte, en fait, que toutes les compagnies s'affichent comme féministes, que ce soit plutôt le contraire de dire, mais pourquoi vous êtes pas féministe, en fait? On veut tous vivre dans un monde plus égalitaire. Pourquoi pas commencer en s'adressant à l'enfance et à la jeunesse en ces termes-là?
Exactement. Et puis, bon, alors, c'est vraiment Sœur Sirène, là. Ça, ce sera possible de revoir ça, ben, vous l'avez dit, à Ottawa, c'est ça, exactement, pour l'automne?
Ottawa, ça, c'est Racine, Sœur Sirène.
Ah, ça, c'est Racine, je m'excuse.
Non, il n'y a pas de problème. Sœur Sirène, il y aura, par contre, une suite à un court-métrage d'animation. Donc, on est en train de travailler à un court-métrage d'animation sur Sœur Sirène qui devrait sortir dans les prochaines années. Ça sera ça la prochaine étape.
Ben c'est très intéressant. Donc, Sœur Sirène qui nous invite à nous questionner sur nos préjugés et à imaginer un avenir habitable pour les enfants marginalisés. Merci beaucoup, Élie Marchand, d'être venue nous en parler.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Très intéressant. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Ah ben, deuxième moitié d'heure de Aime l'été. Alors, merci d'être avec nous. Et puis, Nathalie, un autre beau sujet, Élie Marchand, un auteur très prolifique.
Ah, oui,
et je pense même qu'on va tâcher de le recevoir de nouveau parce qu'on veut
continuer à jaser.
Oui, intéressant, le théâtre jeunesse aussi.
Vraiment intéressant.
Oui, très intéressant.
On va l'avoir à nouveau.
Tout à fait. Alors là, cette fois-ci, on va parler à Marie Ouzeau, qui est directrice générale de Gris Montréal, et qui est un organisme communautaire à but non lucratif qui démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez bien?
Très bien, oui.
J'étais très heureuse de vous accueillir parce que finalement, vous savez, on a besoin aussi de parler. On utilise régulièrement du vocabulaire et je pense qu'avec vous, on va pouvoir faire du chemin aussi pour notre petit lexique et puis de démystifier plein de choses. Alors, oui, parlez-nous de votre organisme Gris Montréal.
Alors oui, donc le GRI Montréal, GRI qui veut dire en fait groupe de recherche et d'intervention sociale, c'est un organisme qui a été fondé il y a près de 30 ans déjà et dont la mission en fait est de démystifier tout ce qui tourne autour de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, principalement dans les écoles, auprès des jeunes. Donc, instaurer un dialogue, en fait, avec les jeunes, qu'ils soient eux-mêmes concernés par ces questions directement ou pas, par le truchement, en fait, du témoignage. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec 250 bénévoles qui parcourent les écoles de la grande région de Montréal pour répondre aux questions des jeunes.
C'est ça, parce que vous en avez beaucoup de questions, j'imagine, hein, des jeunes. Tout de même, dans les écoles, c'est une belle façon de joindre ces jeunes-là. Et puis, finalement, il y a plein d'interventions aussi que vous faites dans le milieu scolaire.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Hein. Donc, on va finalement, sur une année scolaire, rencontrer près de 30 000 jeunes. 1200, on appelle ça des interventions, ce
oui,
sont
c'est
des
ça.
Ateliers.
C'est hein, pour donc, ça que j'allais voilà. dire. Un millier d'interventions, c'est quand même assez impressionnant, là.
Oui, tout à fait. Alors, et encore, si on avait plus de bénévoles, je pense qu'on pourrait en faire plus.
Exactement. Donc, et puis, bon, parlez-nous de cette diversité sexuelle. Comment on s'y retrouve finalement? Bien sûr, quand on est confronté, on entend beaucoup parler maintenant dans les médias de plus en plus, mais évidemment, je regardais juste le lexique, le vocabulaire. Finalement, on s'y perd un peu. Honnêtement.
Oui, c'est vrai, ça peut, quand on n'est pas habitué à travailler avec ces mots-là, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu, mais je pense que avant de rentrer dans des définitions, je pense que ce qui est intéressant, c'est simplement d'avoir une posture, en fait, c'est de travailler notre posture d'ouverture sur des identités qui sont différentes des nôtres. Et puis après, bon, ben, la compréhension de tel ou tel mot, ça peut se faire dans un deuxième temps, mais en fait, ces mots-là vont, comme tous les mots de la langue française, de toute façon, évoluer aussi, hein.
Oui,
et parfois,
oui.
on peut avoir des mots qui sont utilisés par des personnes différentes et qui les utilisent avec des significations qui sont parfois un peu différentes aussi. Et c'est la même chose pour le vocabulaire qui est lié à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Donc, je pense qu'avant de vouloir nous transformer nous-mêmes en une espèce de dictionnaire de tous ces mots-là et de connaître des définitions par cœur, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'être à l'écoute de l'autre et vraiment, de, quand on entend ces mots-là et que quelqu'un s'identifie grâce à ces mots-là, de lui demander, bon, mais d'accord, et qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait? Et là, on aura vraiment la possibilité d'être sur la même longueur d'onde et de comprendre ce que la personne cherche à nous transmettre comme information avec ce mot en particulier.
Mais est-ce que je me trompe, on va se le dire, on est en 2024 et je trouve que le vocabulaire évolue très rapidement.
Mm-hmm.
J'en perds des bouts. Et pourtant, je me tiens formée. C'est un... Je ne suis pas, le vocabulaire. J'y arrive pas.
Oui,
d'autant plus qu'on a des enfants aussi, et puis on veut être quand même à l'affût, on veut bien faire les choses aussi. Et parfois, on a l'impression d'être maladroit.
Ben c'est tout à votre honneur de vouloir bien faire les choses, bien entendu, mais je crois que c'est important de se rappeler que c'est quand même une réalité, une communauté qui est dont la place dans l'espace public, je dirais, est assez récente. Hein, si on regarde ça à la lumière des dernières années, il y a 50 ans, on parlait pas du tout de ces questions-là. C'est peut-être qu'il y a plus de 10 ans, on va dire, surtout par rapport aux questions d'identité de genre, hein, où le vocabulaire se développe, en fait. Ce sont des communautés qui apprennent à se dire aussi d'une certaine façon. Donc, le vocabulaire se développe, se raffine. Les identités se raffinent aussi. Je trouve ça bien que les jeunes et moins jeunes puissent trouver des mots qui vont représenter exactement ce qu'ils ressentent. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde autour doit connaître tous ces mots-là et en comprendre tout de suite tout le sens et toutes les nuances? Pas forcément, mais encore une fois, c'est une question d'ouverture et d'écoute et puis d'évoluer ensemble.
Oui, d'accord. Souvent, je vous pose une question là parce que des fois dans mon entourage, il y a des gens qui me posent aussi la question. Évidemment, nous, ici à Canal M, on a déjà une mission, alors on est peut-être plus sensibilisés. Mais évidemment, des fois, on a l'impression que finalement, bon, il y a l'identité de genre, mais aussi on sent parfois que c'est très, très... on cherche à décortiquer dans les moindres détails notre orientation sexuelle, le fait de ne pas avoir de sexualité est en soi une orientation sexuelle. Enfin, on ne sait plus trop démêler. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à bien communiquer auprès des jeunes? Est-ce qu'eux arrivent à voir la différence?
Je pense qu'il y a une curiosité de leur part. Je pense aussi que les jeunes ont besoin de modèles. Les jeunes ressentent des choses. Hein. Les jeunes construisent leur identité. Donc, ils sont avides, en fait, de voir, OK, ben justement, quels sont les possibles, à quoi j'ai accès. Donc, je crois que de présenter cette diversité-là dans toutes, encore une fois, ces nuances, ça ne peut que les aider à se comprendre parce que en fait, on a souvent des jeunes adultes ou des adultes moins jeunes qui vont nous dire « mais j'ai toujours ressenti quelque chose, mais j'avais pas les mots pour le dire. Mmh. » Et puis, j'ai rencontré telle ou telle personne qui m'a dit qu'elle s'identifiait de telle façon, qui m'a expliqué ce que ça signifiait pour elle et ça a immédiatement résonné en moi. Donc, si on peut reproduire ça avec des jeunes qui sont justement à l'âge où ils se questionnent, où ils ressentent, plutôt que d'attendre 30 ou 40 ans plus tard, je crois que ce sont des bonnes choses à mettre en place.
Est-ce que vous faites en même temps une éducation aux parents à travers ça?
Alors, c'est sûr que l'éducation aux parents se fait par ricochet, c'est-à-dire que les jeunes rentrent chez eux et vont parler de l'intervention qu'ils ont eue avec les bénévoles du GRI. On aimerait beaucoup avoir accès aux parents de façon directe, mais évidemment, l'expérience nous a montré que quand on organise des ateliers pour les parents, vont se présenter les parents qui sont déjà sensibilisés, qui ont juste envie d'en apprendre un petit peu plus, et ceux qui gagneraient à... disons, avoir une conversation plus en profondeur, malheureusement, ne viennent pas, hein, puisqu'il n'y a pas de présence obligatoire. Contrairement aux ateliers qu'on fait en classe, où on va s'adresser à l'ensemble du groupe et où tout le monde assistera à l'atelier. Donc, on aimerait ça leur parler plus souvent aux parents, mais on compte quand même sur les jeunes pour ramener l'information à la maison.
Oui, parce qu'évidemment, on a toujours parlé d'homophobie, de transphobie, enfin, mais il y a tellement autre chose maintenant, parce que, bon, GRI Montréal, d'abord, j'imagine que ça fait référence aussi, on parle de gris sexuel, asexualité grise, enfin, il y a toutes des terminologies, enfin, tout un lexique aussi particulier. D'ailleurs, gris sexuel, c'est, bon, vous pouvez un peu m'en parler, un exemple à donner.
Alors, c'est amusant que vous disiez ça parce qu'en fait, non, notre nom à nous n'a rien à voir.
N'a rien à voir, OK.
Non, voilà, parce que c'est vraiment un acronyme qui veut dire groupe de recherche.
Ah ben oui, c'est vrai, tout à fait, vous avez raison.
Et qui a, donc, comme je vous disais tout à l'heure, près de 30 ans. Et à l'époque, on ne parlait pas de gré sexuel. Ni d'autres identités qui tournaient autour du mot gris. Est-ce que vous m'entendez encore?
Oui, je vous entends très bien. Oui. Très bien. D'ailleurs, je vous ai présenté au tout début de l'émission, l'acronyme, en fait, je l'ai effectivement exposé très clairement, mais c'est vrai que indirectement, oui, ça n'a rien à voir, mais c'est ça. Mais ça m'a fait penser tout de suite à gris sexuel parce que je le voyais
dans
le lexique. Bon.
Mais justement, dans les terminologies, les acronymes, là aussi, on s'y perd. Alors moi, j'ai des gens autour de moi qui sont un peu plus âgés et qui n'y comprennent rien parce que si on va sur le site de Jeunesse J'écoute, le gouvernement du Canada, les YMCA, GRI Montréal, on retrouve différentes terminologies. Il y a LGBTQ2+, il y a LGBTQQIP2SAA, etc. Comment on s'y retrouve et qu'est-ce qui est la vraie affaire?
Ben, écoutez, on parle d'identité humaine. Alors, c'est sûr que je crois qu'il n'y a pas de réponse où on pourra dire c'est celle-là et c'est l'unique bonne réponse. Hein? Okay. Donc, chacun va y aller, en fait, avec sa vision, ce qui est important, parce qu'en fait, évidemment, on communique, hein, on utilise des mots. Alors, on choisit certains mots par rapport à ce qui nous rejoint le plus. Donc, c'est la même chose avec l'acronyme. Mm-hmm. Pour certaines personnes, ça va être très important d'utiliser l'acronyme, je dirais, le plus détaillé possible pour mettre en valeur toutes les identités. Alors là, vous allez avoir le nombre le plus long de lettres qui vont se suivre. Pour d'autres personnes, ça va être important simplement de signifier qu'on va parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre et ils vont se contenter, entre guillemets, de LGBTQ et peut-être mettre un plus à la fin pour inclure les autres identités.
Oui, bien sûr, d'autres identités.
Mais moi, le message que j'aurais envie de passer, en fait, c'est simplement être cohérent.
Ouvert.
Avec, oui, ouvert, bien sûr, mais être cohérent avec ce dont on parle. Par exemple, ne pas utiliser un acronyme de façon automatique, alors qu'en fait, le sujet qu'on aborde ne concerne pas toutes les personnes qui sont reprises dans cet acronyme-là. Je vous donne un exemple. Quand on utilise LGBTQI, I, mm-hmm. A, etc. Oui. J'insiste sur le I. Donc, il parle des personnes intersexes, par exemple. Eh bien, si le sujet que vous allez aborder ou si le texte que vous écrivez ou les données que vous partagez ne prennent pas du tout en compte les personnes intersexes, alors quel est l'intérêt d'utiliser un acronyme qui le comprend? Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une base de réflexion qui est assez intéressante au moment où on choisit l'acronyme. Et encore une fois, comme je disais tantôt, il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense que simplement, il faut regarder quels sont les objectifs qu'on a et de quoi on parle. Et ça peut nous aider à ce moment-là à choisir le bon acronyme. Et pour les personnes un peu plus âgées dont vous parlez oui. tout à l'heure, je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à retenir. C'est qu'il y a des mots qui font référence à l'orientation sexuelle. Mm-hmm, mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment envers qui on est attiré, qui est susceptible de créer chez nous une attirance romantique, affective, sexuelle. Donc ça, c'est des mots qu'on connaît quand même assez bien, hein, qui tournent autour de gay, lesbienne, bisexuel, pansexuel, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres mots qui vont parler plus d'identité de genre. Donc ça, c'est vraiment un sentiment intime et profond d'appartenir à un groupe genré, donc homme, femme, un peu des deux, ni l'un ni l'autre. Et c'est là qu'on va avoir les mots qui vont plus être de l'ordre de personne trans, personne non-binaire. Donc c'est le fameux T dans le LGBT. Donc ces deux notions-là sont différentes, en fait. Et une personne peut parler de son orientation sexuelle indépendamment de son identité de genre et vice-versa. Donc moi, si je vous communique sur mon orientation sexuelle, ça ne vous donne aucun indice sur mon identité de genre et vice-versa.
C'est vrai. Ouais.
Donc ces deux groupes-là, c'est important de comprendre qu'ils sont différents et qu'ils sont indépendants. Ce sont deux identités qui sont indépendantes les unes des autres. Et je pense que déjà, si on maîtrise ces questions-là, on fait déjà un bon pas en avant.
Mais je suis quand même persuadée qu'on ne choque pas. Pour avoir autour de moi des gens de différentes identités de genre, on ne blesse pas. Généralement, ces gens-là ne se sentent pas blessés par notre ignorance.
Mm-hmm, mm-hmm. Non, effectivement, tout à fait. Quand ça se fait dans l'ouverture et puis dans la curiosité bienveillante, je dirais, bien sûr, on va expliquer qui on est et même pourquoi on a choisi tel ou tel autre mot. Hein. Moi, je me souviens, j'ai quand même maintenant un peu plus de 50 ans, je me souviens que dans les années 80-90, on discutait certaines femmes par rapport à leur orientation sexuelle préféraient le mot lesbienne, d'autres préféraient homosexuel, d'autres préféraient gay. Chacune avait sa raison pour ce choix-là. Mm-hmm. Et aucun n'était meilleur que l'autre. Ce sont juste des parcours de vie. Ce sont, comme je disais, ce sont des choix qu'on fait en fonction de ce qui nous parle le plus. Et voilà, donc c'est simplement d'être à l'écoute.
Et oui, alors d'autres se disent fluides, enfin, il y a plein de... Mm-hmm. Mais je pense qu'on peut très bien retrouver, évidemment, tout ce vocabulaire. En fait, c'est très bien présenté quand on fait une petite recherche. Là, on peut avoir quand même assez facilement tout ce vocabulaire et peut-être s'ouvrir encore davantage à toutes sortes de réalités différentes, identité de genre, orientation sexuelle, comme vous le dites. Ça a été vraiment très intéressant de partager avec vous toutes ces choses-là, finalement, que l'on ne maîtrise pas toujours, évidemment, quand on est moins concerné. Mais cela dit, c'est vraiment... vous faites, évidemment, un travail extraordinaire auprès des jeunes, auprès des écoles aussi. Alors, il y a toute cette sensibilisation qui est à faire, bien sûr, et puis une éducation populaire également à faire.
Absolument. Merci beaucoup pour vos bons mots.
On invite les gens aussi à aller sur votre site Gris Montréal pour les gens qui ont besoin d'aide, de conseils. Donc, grismontréal.ca.
Toujours à la recherche de bénévoles, toujours à la recherche de soutien financier, bien entendu, comme n'importe quel organisme communautaire.
Je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Et vous pouvez orienter quand même les personnes aussi qui en manifestent le besoin vers d'autres ressources pertinentes, très importantes.
Exactement. Nous ne faisons pas d'intervention individuelle, mais nous faisons de la référence, oui, tout à fait.
Un gros merci, Marie Ouzeau. Ça a été un plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Écoute, en pleine semaine nationale de la prévention de la noyade, on va parler de la traversée du lac Saint-Jean.
Ouais.
Bonjour, Monsieur Leclerc. On accueille Marc-André Leclerc qui va nous parler de cet événement incontournable de l'été. Mais c'est presque un événement légendaire, en quelque sorte. Ça fait 70 ans que ça existe.
Oui, tout à fait, 70 ans. Il y a deux festivals, activités au Québec qui ont fêté leur 70e anniversaire en 2024. Ici, nous, la traversée cette semaine. Et il y a quelques mois, le Carnaval de Québec hein, également qui a fêté 70 ans. Et donc, il y a vraiment, là, on est dans les plus vieux là, événements avec le Carnaval de Québec.
Oui, parce qu'il y en a eu d'autres, des événements comme ça, des événements comme la traversée du lac Memphrémagog, hein, je pense. Mm-hmm. Mais bon, enfin, il y en a qui n'existent plus.
Oui, ouais, effectivement, à une certaine époque, il y avait la traversée ici à Robertval, et il y avait le Memphrémagog également. Malheureusement, là, il y a déjà quelques années que l'événement est terminé, mais ici à Robertval, on sent vraiment l'attachement de la communauté envers notre événement, puis on est heureux là, de pouvoir fêter notre 70 ans cette année.
Et ça reste finalement mythique, à savoir que c'est quand même un des événements mondiaux, qui est reconnu comme étant très, très difficile.
Oui, effectivement. Il y a quelques années, là, il y a un magazine américain là, qui avait fait la liste des événements où c'était sportif les plus difficiles à accomplir. Et la traversée du Lac-Saint-Jean figurait là, dans le top 6. Là,
exact.
Des événements. Ouais, dans le top 6 des événements les plus difficiles à faire dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est une belle marque pour nous. Puis on est quand même fiers de figurer dans ce palmarès-là.
Et tout est parti d'un certain Martin Bédard qui lui, contemplait son lac et puis disait, il faut faire quelque chose avec ça parce que, bon, et alors ça a commencé en 1955 et puis, il y a des gens qui se sont comme ça risqués à faire cette épreuve-là et tranquillement, pas vite, c'est devenu l'événement incontournable que l'on connaît, mais on a accueilli un nombre assez incroyable de nageurs de haut niveau, là.
Oui, au total, là, au cours des 69 dernières années, c'est 493 nageurs là, de 37 pays qui sont venus affronter les eaux du lac Saint-Jean. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est au début des années 50. Martin Bédard voyait le lac, rêvait de voir un être humain le couper cette mer intérieure en deux. Et M. Bédard, lui, n'était pas vraiment un excellent nageur, fait qu'il a discuté avec Jacques Amiot, qui était vraiment une légende là, dans le domaine de la natation en eau libre. Et c'est justement là, en juillet 1955 là, que M. Amiot et 5-6 autres athlètes ont pris le départ de l'autre côté du lac. Et il y a seulement M. Amiot qui a terminé la compétition.
Oui, donc, ça a été le premier.
Oui, le premier. Il est devenu le premier en 1955.
Hey, quand même, le 23 juillet 1955. Là, on pourrait être pile poil, finalement.
Oui,
alors on est le 24, mais si ça avait été le 23, on aurait pu dire, hey, mon Dieu, c'était aujourd'hui presque l'anniversaire. Il a été le premier, mais il y a plein de trucs, des records battus. Et il y avait quand même l'Américain John Kinsella qui, lui, a été battu des records tellement que les gens, on a dû déplacer le départ parce que les gens, quand on avec ces records-là, c'est que les gens n'avaient même pas le temps de dîner que finalement l'autre avait terminé.
Alors... Non, effectivement, John Kinsella, qui est un excellent nageur américain, à la fin des années 70, a gagné la traversée à 6 reprises de façon consécutive. Et effectivement, l'organisation a dû déplacer le départ parce que là, les nageurs arrivaient, M. Kinsella et les autres arrivaient trop rapidement à Robertval. Donc, les gens n'avaient même pas le temps quasiment de revenir là, du point de départ de Péribonkok. Les nageurs étaient arrivés. Donc, la traversée a dû s'ajuster. Donc, c'est sûr que John Kinsella a marqué les 70 ans. Son record qui était quand même battu au début des années 2000 par un Bulgare, Petar Stoichev, qui a remporté la traversée à 11 reprises consécutives. Là. C'est vraiment là, un des rois également du lac Saint-Jean. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs nageurs qui ont marqué l'histoire de Robertval et John Kinsella, Petar Stoichev, Claudio Plitt aussi qui a marqué la traversée d'une façon bien particulière parce que M. Plitt a remporté à 4 reprises là, la traversée aller-retour. Là. Parce
qu'à
un certain moment, on a déplacé la traversée n'était pas de 32 km comme aujourd'hui, c'était un aller-retour. Donc, Claudio Plitt était vraiment le roi là, du 64 km.
Maintenant, pouvez-vous me parler des conditions On n'a pas parlé des conditions. C'est 32. Là, vous parliez de 32 kilomètres. Ouais. Mais les conditions, ça varie d'une saison à l'autre. Mais est-ce que c'est à quel point c'est difficile pour les gens?
Mais en fait, vous avez raison, c'est que ça varie tellement. Et c'est ça la particularité du lac Saint-Jean, c'est qu'il est imprévisible.
C'est ça. Là, ça va être beau en fin de semaine, hein? C'est samedi, la course.
C'est très beau temps en fin de semaine.
L'eau est plus chaude un peu, parce que c'est ça, ça peut être dangereux aussi au niveau de l'hypothermie, hein?
Oui, effectivement. Là, cette semaine, la température de l'eau est aux alentours de 72, 73, 74 degrés Fahrenheit. Il y a des traversées que les athlètes affrontent l'eau du lac Saint-Jean à 58, 59, 60. Là. Ça fait que ça, c'est des compétitions qui sont plus difficiles. Mais cette année, tout semble là, bien fonctionner. On annonce du beau temps, là, surtout vendredi et samedi. Et ça, c'est important d'avoir du beau temps. Même si l'eau est chaude, d'avoir du beau temps, du soleil durant la compétition, parce que ça réchauffe vraiment les athlètes. Là. Une fois qu'on est dans l'eau du lac Saint-Jean, même si l'eau est bonne, mais si à l'extérieur c'est nuageux ou c'est venteux ou si il y a de la pluie, c'est sûr que ou s'il fait froid, ben c'est sûr que ça hypothèque là, les athlètes dans les eaux.
Effectivement. Donc 25 nageurs qui vont prendre le départ là, de 9 pays différents. Et puis il y a des femmes quand même qui ont marqué l'histoire hein, de cette traversée. Là. Je pense en 1958, il y a eu l'Américaine Greta Anderson hein, qui a remporté. Mais ça, c'était est-ce que c'était bien la traversée, cette nageuse-là? Oui, tout à fait.
En fait c'est ça. Sur 70 ans, à deux reprises, en 1958 avec Greta Anderson. Et en 66, avec Judith Dennis, elles ont tous les deux remporté la compétition, mais devancé également tous les hommes qui étaient sur la ligne de départ.
C'est
arrivé à deux reprises en 70 ans. Fait que c'est sûr que Mme Anderson et Mme Dennis ont marqué l'histoire de la traversée. Puis c'est sûr que ça reste toujours dans les annales et un fait marquant qu'à deux reprises, là, c'est des femmes qui ont remporté la compétition au classement général.
Oui, alors il y a plein de choses à apprendre de toute façon. Et d'ailleurs, en allant sur votre site, là, on peut avoir toutes sortes d'infos amusantes. Et il y a M. Jean-Pierre Girard aussi qui a écrit un livre récemment, La traversée du lac Saint-Jean. Lui aussi, ça a été toute sa jeunesse. Alors, les folles histoires de la traversée. Mmh. Alors là, on a toutes sortes d'anecdotes là-dedans, là.
Oui, tout à fait. Jean-Pierre Girard, qui, en plus d'être un natif de Robertval, a animé là, l'arrivée des nageurs pendant 25 ans. Fait qu'il a vraiment marqué à sa façon, l'ancien journaliste à Radio-Canada du côté de Saguenay. Donc, il a vraiment marqué l'histoire de la traversée et a accueilli là, pendant 25 ans les meilleurs nageurs. Et ce qui est très intéressant dans le livre de M. Girard, c'est qu'on sent tout l'amour là, qu'il a pour l'événement, mais également pour les athlètes qui ont traversé le Pequagami depuis maintenant 70 ans. Et c'est vraiment intéressant de regarder la traversée sous la loupe là, de M. Girard.
C'est vrai. Et puis, enfin, parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, ce soir, c'est le traditionnel souper dans la rue. Une tablée de près de 1,5 km. Donc, c'est 10 000 convives. Alors, c'est vraiment tout un événement très attendu à chaque année.
Oui, là, je peux vous dire qu'à Robertval, ça sent la tourtière beaucoup. on sent une belle
tarte au bleuet.
Oui, la tarte au bleuet. Les tables sont installées, hein, parce que nous, c'est l'organisation, là, on place les tables. Parce que les gens, ils ont deux options. Soit qu'ils font affaire avec un restaurateur du coin qui vend des billets pour une portion de tourtière et souvent de tarte au bleuet, ou ils peuvent amener également leur propre repas et manger en famille. Donc, vraiment, là, les tables sont installées, ça sent la tourtière, tout le monde est prêt.
Quel événement?
Pour un événement là, qui est là depuis la fin des années 60 ici à Robertval, mais... C'est tellement des belles retrouvailles, c'est comme Noël là.
Tout à fait. Alors les gens sont vraiment, puis c'est très chaleureux comme événement. Alors évidemment, il y a des spectacles aussi, il y a toute une programmation. Quand on va sur votre site là, il y a pas de problème, on va voir il y a Matt Lang aussi, le artiste New Country canadien qui sera là. Donc alors voilà, ça c'est le 27 juillet.
On est presque complet pour M. Lang.
Sûrement, sûrement. Sûrement.
Toutes les gens qui l'ont vu en spectacle depuis le début de la saison. Val me dit qu'il est extraordinaire. Ouais. Et pour nous, ça va être la façon de clôturer là, notre 70e anniversaire à Robertval. Et ça, c'est toujours intéressant quand on organise, quand les bénévoles, hein, pour nous, c'est plus de 300 bénévoles. Hein, parce que oui, il y a les athlètes, mais également il y a les spectacles. Ça prend des guides pour les embarcations, ça prend la sécurité, ça prend des médecins, des infirmières.
C'est énorme. C'est énorme.
Pour superviser l'accueil de ces gens-là, des familles d'accueil. Donc oui, c'est une organisation assez énorme.
Eh bien, merci d'être venu nous en parler, cette traversée du lac Saint-Jean qui se fait samedi. Mais évidemment, d'ici là, il y a plein d'activités. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Et bonne fin de semaine. Bonne semaine.
Merci. Ouais.
Merci.
Au revoir. Ah ben c'est tout déjà. Il faut se quitter, Nathalie.
Ah non, mais on se retrouve demain.
Mais on se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h.
Oui,
aime l'été. Voilà, bon après-midi tout le monde. Au revoir.